100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, on les appelle les naufragés du mondial. Il y a presque un an, ils ont profité de la Coupe du Monde de football pour venir en Russie avec un visa spécial, le Fan ID. Ils, ce sont des milliers d'Africains qui espéraient ainsi trouver du travail, voire même se déplacer ailleurs en Europe. Mais le rêve ne s'est jamais réalisé. Ils sont aujourd'hui menacés d'expulsion, ils n'ont jamais pu travailler, ou pire encore, ils ont été exploités comme cette jeune Nigériane tombée dans un réseau de prostitution et qu'a rencontré à Moscou Daniel Valo.
I left Nigeria on the 17th and I came to Moscow on the 19th of June.
C'est dans un café de la banlieue de Moscou que nous la rencontrons. Visage fin, regard timide, Blessing est nigériane, elle est âgée de 19 ans. En juin 2018, elle débarque à Moscou grâce au Fan ID, ce visa délivré exceptionnellement pour la Coupe du Monde. Le football, elle s'en moque, ce qu'elle veut, c'est trouver du travail.
Ma mère avait des problèmes d'argent, elle était vraiment coincée. Et puis, je voulais une vie meilleure pour ma fille. C'est pour ça que j'ai décidé de venir ici à Moscou.
À Lagos, des intermédiaires nigérians lui assurent qu'avec le Fan ID, elle pourra facilement trouver un emploi en Russie. Mais dès son arrivée à Moscou, Blessing se retrouve cloîtrée dans un appartement avec d'autres filles de son âge et le rêve bascule dans le cauchemar.
La dame qui s'occupait de moi m'a dit de me préparer, que j'allais travailler. J'étais très contente d'avoir déjà du travail, à peine arrivée à Moscou. Et puis, je suis montée à l'étage de l'appartement, et là, j'ai vu un homme lui donner de l'argent. J'ai commencé à me demander ce qui était en train de se passer, et là, elle m'a dit, tu es ici pour te prostituer, tu es là pour ça, tu n'as pas le choix. Et moi, je me disais, je ne peux pas faire ça, je ne peux vraiment pas.
Privée de ses papiers, incapable de se débrouiller en russe, la jeune fille est prise au piège, victime d'un réseau de proxénètes nigérians.
Au début, j'avais très peur. Ils m'ont dit que personne ne pourrait m'aider, même pas la police. Que la police m'expulserait et que je ne pouvais pas me fier aux Russes. Ils ont commencé à nous maltraiter, moi et les autres filles de l'appartement, à nous battre avec des câbles et d'autres choses. C'était vraiment dur.
Blessing finira par s'en sortir grâce à l'intervention de la police russe et grâce à l'action d'Alternativa, une association de lutte contre l'esclavagisme en Russie. À présent, elle espère que sa demande d'asile aboutira car son statut de témoin à charge dans une enquête criminelle pourrait l'aider dans sa démarche. Mais d'autres n'ont plus aucun espoir. C'est le cas de ce jeune homme qui n'ose même plus sortir dans la rue de peur de se faire arrêter.
Tous les jours, j'ai peur que quelqu'un me demande mes papiers, que le gouvernement m'arrête. J'évite du coup les espaces publics, j'évite de sortir. Mais même ça, c'est difficile parce que pour avoir une chambre, il faut des documents. Il faut des documents pour tout. Ma situation est vraiment très compliquée. C'est difficile d'expliquer à quel point c'est compliqué.
Le jeune homme vit la peur au ventre et refuse que nous donnions son prénom ou même sa nationalité. Pour venir en Russie, il a payé un intermédiaire qui lui a fait miroiter la possibilité de trouver un emploi. La vérité, il l'apprend lorsqu'il arrive à Moscou. Son Fan ID ne lui permettra pas de travailler. Des milliers d'Africains se sont retrouvés dans la même situation, comme nous l'explique Yevgenia Lyozova du Comité d'assistance civique, une association de soutien aux demandeurs d'asile.
On leur a dit que la Russie, c'était comme l'Europe, que s'ils n'avaient pas envie d'y rester, ils pourraient facilement aller ailleurs, en France ou en Norvège par exemple. Et ces pauvres gens ont vendu tout ce qu'ils avaient et ils ont tout abandonné pour ce dernier espoir. Ensuite, quand nous devions leur expliquer que non, il n'y avait rien ici pour eux, ils étaient au bord des larmes.
Le jeune homme que nous avons joint par téléphone vient d'un pays en guerre, mais ses demandes d'asile n'ont pas abouti et désormais il peut être expulsé à tout moment.
I cannot go back to the immigration office.
Je ne peux pas revenir au bureau d'immigration parce qu'ils ont déjà traité mon dossier et peut-être qu'ils me diront que je dois partir, que je dois faire ma valise. Et moi, je ne veux pas rentrer dans mon pays.
And I don't want to go home.
Selon les chiffres publiés par le ministère russe de l'Intérieur, plus de 11 000 ressortissants étrangers ont profité du Fan ID pour rester illégalement en Russie. En mars dernier, la moitié d'entre eux avaient été identifiés et expulsés par les autorités.
Et le football comme un mirage, comme un vecteur d'esclavage moderne, c'est tout l'objet du livre des journalistes Barthélémy Gaillard et Christophe Glaise. Leur enquête Magic System dévoile toute l'exploitation crapuleuse des jeunes talents africains qui rêvent de clubs européens. Les deux auteurs ont raconté à Catherine Roland comment fonctionne ce système en prenant l'exemple d'un agent espagnol.
Cet agent espagnol dont vous parlez, il s'appelle José Jiménez, il est assez proche de l'Atlético Madrid. En fait, comment il se nourrit en chair fraîche, et j'utilise le terme à bon escient, c'est il a des rabatteurs dans plusieurs pays africains. Et nous, quand on était à Bamako, au Mali, on a eu la chance de tomber sur trois jeunes victimes, Mohamed, Moussa et Massiré, à qui on passe le bonjour, et qui s'étaient fait escroquer par son rabatteur. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est au sommet de la pyramide, il y a un club européen, un agent, puis ces rabatteurs dans différents pays qui zonent le long de la ligne de touche et qui, toujours, si vous voulez, peu importe le pays dans lequel on va, c'est toujours la même histoire. C'est trois jeunes qui étaient en train de jouer au foot. Arrive un agent qui présente bien, qui leur dit « Ah oui, je peux vous avoir un test à l'Atlético, à Manchester, au PSG, au Real, à Amiens ou à Reims. Il faut juste me donner 3 000 euros pour avoir le test. » Alors bien sûr, ils donnent sans compter parce que pour eux, ils sont totalement happés par l'Eldorado européen.
Barthélémy Gaillard, effectivement, ce trafic, c'est toujours dans la même direction, hein, comme le disait votre collègue. C'est toujours vers les clubs européens. Alors, ça passe quelquefois, malgré tout, par le Maghreb, hein, comme en fait, c'est la même route que les migrants. Et là-bas, les conditions de détention, on peut parler vraiment de détention, hein, quelquefois, sont épouvantables.
Totalement, on peut parler de conditions de détention dans le sens où effectivement, dans les pays du Maghreb se sont développées pas mal de structures dont certaines dont on parle dans le livre précisément, en fait, qui offrent soi-disant une formation de très grande qualité pour les jeunes joueurs qui du coup croient en leur chance et s'inscrivent dans ces formations qui du coup coûtent effectivement assez cher, parfois 5000 euros. Et en fait, de centres de formation de haut niveau, d'installation de qualité, ils trouvent quoi? Ils trouvent simplement 3 ballons crevés et 2 pauvres terrains de foot. Et qui plus est, le directeur de ce centre de formation ensuite a ces jeunes joueurs sous sa coupe réglée, à savoir il leur prend leurs papiers. Donc les gamins se retrouvent dans une situation d'énorme détresse administrative et du coup se retrouvent dans des formes d'esclavage moderne. On peut vraiment utiliser
les termes. Parce qu'ils sont logés à 30 dans un petit studio. Ils ont pas d'argent, pas de carte bleue. Si vous voulez, leur seul échappatoire, c'est de continuer à jouer au foot et de ne pas se plaindre face à des gars qui sont là, qui non seulement ont empoché l'argent. Et quand on parle de 5000 euros, 3000 euros, ça a l'air de rien comme ça, mais pour une famille africaine, c'est les économies de toute une vie. Donc ils promettent, c'est de la publicité mensongère à son plus bas niveau. Et donc ils regardent, ils les parquent à 30 dans un appart et ils regardent lequel va percer, lequel va être opéré pour pouvoir faire des millions. Mais on parle jamais des 29 autres qui restent comme ça et qui sont vraiment dans une situation de dépendance totale, clandestin, bloqué, et qui ne peuvent pas retourner au pays par honte de l'échec.
Magic System, l'esclavage moderne des joueurs africains est publié aux éditions Marabout.
Europa.
Europa. Spéciale élection européenne dans Courrier International. 28 jours, 28 pays pour mieux comprendre nos voisins sur le site du magazine et dans sa version papier. À 20 jours du premier scrutin qui aura lieu le 23 mai, on retrouve le journaliste de Courrier International, Sacha Mitchell. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous avez sélectionné pour nous un article de la presse portugaise qui nous parle d'un héros socialiste et européen.
Absolument, c'est l'homme fort de la politique portugaise et du gouvernement de gauche, le pilier tout simplement. Il s'appelle Centeno, Mario Centeno, le héros du moment, l'économiste brillant, l'homme politique qui marche, s'enflamme l'hebdomadaire Lisboète, Expresso, ébahi par sa réussite. Presque inconnu en 2015, le ministre des Finances et président de l'Eurogroupe a connu depuis une ascension politique fulgurante. Il est aujourd'hui clairement celui qui tient les rênes de l'économie portugaise, l'élément clé du gouvernement socialiste qui capitalise analyse sur ses résultats en vue des élections européennes, mais aussi des législatives dans 6 mois. Le pays n'a jamais connu en démocratie un ministre des Finances aussi puissant, aussi populaire, aussi influent, relève Expresso. Mais l'économiste est aussi un homme aux deux visages. Un pour la scène domestique qui assure qu'il n'y aura pas d'austérité, l'autre à usage externe qui explique qu'il y en aura encore. Et d'ailleurs, c'est un miracle pour Expresso. Centeno est parvenu à convertir la gauche à l'orthodoxie budgétaire, au déficit zéro, au contrôle spartiate des comptes publics, et cela sans que personne ou presque ne trouve à y redire. Et le magazine de conclure, il a fait du contrôle du déficit public une bannière politique que la gauche agitera lors de la prochaine campagne électorale. Une gauche qui avancera en criant « Centeno, Centeno, Centeno ».
Alors si l'économie portugaise rayonne avec Mário Centeno, en Croatie en revanche, un phénomène inquiète le marché du travail, c'est l'exode massif des travailleurs vers l'Allemagne, l'Autriche et l'Irlande.
Depuis ces 10 dernières années, la main-d'œuvre croate a diminué de 500 000 personnes, s'alarme le quotidien Novi List. Les secteurs du tourisme, du bâtiment, de l'industrie et des services sont les plus touchés. Mais dans le pays, on manque aussi de chauffeurs routiers et de personnel dans le secteur de la santé. Les formations visant à prolonger la vie professionnelle et à faire entrer les jeunes sur le marché du travail ne suffiraient pas. Résultat, cette année, une croissance exponentielle des quotas d'embauche des ouvriers étrangers a été enregistrée. Et la Croatie s'apprête à donné plus de 65 000 visas de travail, alors que leur nombre ne dépassait pas, tenez-vous bien, 400 il y a 5 ans. Et il en faudrait encore davantage. Mais le plus dur, c'est de trouver la main-d'œuvre manquante. Les Serbes et les Bosniens voisins préfèrent eux aussi rallier l'Europe de l'Ouest plutôt que de venir en Croatie, où les salaires sont pourtant 2 à 3 fois plus élevés. Du coup, dans le bâtiment, on se tourne vers les travailleurs pakistanais, alors que le secteur touristique s'apprête à offrir de nombreux contrats aux ressortissants philippins. Problème, souligne Davor Vidovic, conseiller de la Chambre du commerce et de l'industrie de Rijeka dans les colonnes du quotidien local. La Croatie n'a pas de politique migratoire adaptée. On ne sait pas comment attirer les travailleurs, ni garder ceux qui sont déjà là. Selon lui, les salaires doivent augmenter au même titre que les autres avantages liés au travail. La seule manière de rester compétitif est de garder les travailleurs dans le pays.
Et puis toujours dans Courrier International, à l'autre bout des Balkans, en Bulgarie, un nouveau scandale secoue la classe politique.
Et oui, à l'origine des révélations, une ONG américaine, la Fondation Anticorruption, dont les conclusions ont été relayées par la presse nationale. Cette affaire, elle s'est rapidement trouvée un nom, l'appartement Gate, comme son nom le laisse penser. Il s'agit bien sûr d'un scandale immobilier et plus précisément d'appartements de luxe achetés à prix très bas par plusieurs représentants du parti de centre-droit au pouvoir, le GERB. Un cas précis pour l'illustrer, celui de la ministre de la Justice, Tsetska Tsacheva, qui aurait acquis en 2018 un appartement de 199 mètres carrés dans un immeuble en construction pour un prix de 590 € le mètre carré. Problème, 7 mois plus tard, ce prix oscillait entre 2500 et 3000 €. Il s'agit d'une des résidences les plus luxueuses de la capitale. La ministre aurait ainsi en fait économisé près de 400 000 €. À la suite de ce scandale, 3 ministres ont démissionné, mais plus cocasse encore, le chef de la commission de lutte contre la corruption, un organisme d'État créé à la demande de Bruxelles et chargé d'enquêter sur l'affaire, a été prié de prendre un congé sans solde durant la procédure. Et pour cause, il est également parmi les heureux bénéficiaires des appartements pas chers. Le sien, apprend-on, est de surcroît doté d'un sauna, apparemment construit illégalement sur la terrasse de l'immeuble de luxe. À quelques semaines des élections européennes, le scandale va certainement laisser des traces pour le parti du Premier ministre Boyko Borisov. Surtout, il en dit long sur la corruption, les passe-droits et le népotisme dans la classe politique locale, autant de travers régulièrement pointés du doigt dans les rapports de la Commission européenne.
Merci beaucoup Sacha Mitchell. Un article et bien d'autres à retrouver sur le site de Courrier International et dans sa version papier. À très bientôt.
À bientôt.
On y parle des migrants et des Balkans à Belgrade. Une pièce de théâtre qui raconte l'histoire d'une rencontre entre un Afghan et une famille serbe connaît un énorme succès. Un récit entre tragédie et comédie, comme nous l'explique Simon Rico.
Depuis sa première représentation en novembre 2018, Ljubav ou Savamali, l'amour à Savamala, fait salle comble au Zvezdara, un théâtre de Belgrade connu pour sa programmation engagée. Luka, parangon de beauf nationaliste, dirige le syndic d'un immeuble immeuble qui jouxte un centre d'accueil pour migrants dans la capitale serbe. Exaspéré par ce voisinage, il lance une pétition pour les déloger. Sa femme et sa fille, qui travaillent bénévolement au centre, décident de ne plus lui adresser la parole et d'héberger dans l'appartement familial Ahmed, un jeune Afghan. D'abord fou de rage, Luka va finir par se faire charmer par Ahmed et s'ouvrir, tandis que sa fille Sarah découvre l'amour avec le réfugié. En 2015 et 2016, plus d'un million de personnes venues de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan et d'ailleurs ont traversé la Serbie, placée au cœur de la route des Balkans. Ce que raconte ce huis clos, c'est le rapport de la population locale face à cette crise avec une bonne dose d'humour. Mais l'amour à Savamala rappelle aussi le passé cosmopolite de Belgrade, quand la capitale de la Yougoslavie non alignée du maréchal Tito accueillait des étudiants venus du monde entier, d'Asie, d'Afrique noire ou du Maghreb. C'est aussi l'histoire d'un lieu mixé Lichte, le centre d'urgence humanitaire de la capitale serbe, créé par un réseau de volontaires durant l'été 2015 dans les locaux d'un espace culturel alternatif. La journée, 1500 volontaires venus de 60 pays accueillaient les migrants et à partir de 16h, de façon assez surréaliste, les activités artistiques reprenaient, se souvient Ivan Lalic, le directeur de ce lieu et l'auteur de L'amour à Savamala. Il s'est d'ailleurs beaucoup inspiré de cette histoire pour écrire sa pièce. Aujourd'hui, plus de 4000 migrants vivent en Serbie dans une vingtaine de camps gérés par le gouvernement avec le soutien financier de l'Union Européenne et des Nations Unies. Quant à Miksa Lichte, le centre est toujours ouvert, 200 personnes y viennent chaque jour et les femmes et les mineurs isolés peuvent y passer la nuit.
Ladies and gentlemen, this next record needs no introduction.
Et pour notre chronique musique, nous retrouvons Vincent Teval. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous nous parlez aujourd'hui du troisième album d'un virtuose de la pop écossaise.
Saluons aujourd'hui le retour de Sid Duncan, découvert en 2015 avec un premier album Architect qui brossait le portrait du jeune écossais en artisan d'une pop nourrie aux grands classiques des années 60. Un premier album que Sid Duncan avait enregistré seul dans sa chambre en bon multi-instrumentiste. Le jeune homme avait rapidement enchaîné avec un deuxième disque également conçu dans une certaine solitude, mais voilà qu'il bouscule aujourd'hui ses habitudes. Avec Health, troisième album ouvert sur le monde et sur les autres, auquel ont collaboré différents musiciens. Certaines chansons ont des sonorités plus synthétiques, d'autres jouent sur des arrangements de cordes somptueux, comme le titre que je vous propose, He Came From The Sun, un morceau écrit pendant les terribles purges anti-LGBT en Tchétchénie et qui évoque l'homosexualité et le coming out de Sid Duncan. From the Sun de Sid Duncan sur RFI Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast et Accent d'Europe. À bientôt.